André Rouget, vous êtes délégué direction nationale à l'Outre-mer. On sait que Marine Le Pen a qualifié de profondément ambigu l'accord qui a été signé à Bougival. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cet accord ?
Mais écoutez, comment voulez-vous sincèrement que Manuel Valls, homme politique nomade, tantôt français, tantôt espagnol, puis à nouveau français, s'intéresse de façon constructive au sort de la Nouvelle-Calédonie et qui plus est au sort de la Nouvelle-Calédonie française. La réalité, c'est que Manuel Valls avait besoin d'un coup politique pour revenir sur le devant de la scène politique française et qu'il a privilégié ce coup politique plutôt que l'avenir des Calédoniens. Il a privilégié le coup institutionnel alors que ce dont ont besoin les Calédoniens à l'heure actuelle, c'est de reconstruire le pays, c'est de le développer et de pouvoir rayonner dans la zone Pacifique Sud à terme. Que peut dire aujourd'hui Manuel Valls à tous les Calédoniens qui se débattent avec leurs problèmes d'emploi? Et d'ailleurs, j'observe que le sujet du chômage partiel n'a pas été réellement abordé. Que dire aux Calédoniens qui se débattent avec leurs banques, avec leurs assurances, avec leurs problèmes d'emprunt et qui doivent se gérer le quotidien? C'est pas l'accord de Bougival qui va remplir les caddies et le frigo des Calédoniens.
Mais quand même, il fallait bien trouver un accord pour trouver une issue à l'accord de Nouméa. Le Rassemblement national souhaitait aussi qu'il y ait un accord entre les composantes calédoniennes.
Écoutez, le Rassemblement national a produit un document de près d'une vingtaine de pages, reprenant ce que Marine Le Pen a dit lors de son passage récent à Nouméa, en disant qu'il fallait une pause institutionnelle et pour privilégier un projet gagnant-gagnant, sans vainqueur ni vaincu, de développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Alors que là, c'est tout le contraire qu'a proposé Manuel Valls, c'est un projet gagnant-perdant. Les gagnants, ce sont Manuel Valls en premier lieu, les loyalistes, les élus loyalistes de façon parcellaire, puisqu'il y a quand même de bonnes choses avec le dégel du corps électoral et la recherche d'une solution européenne pour le nickel. Et puis les vrais gagnants, ce sont les indépendantistes, puisque en politique n'existe que ce qui paraît exister. Et les indépendantistes ont obtenu une avancée majeure avec la reconnaissance de la nationalité calédonienne, avec la reconnaissance de l'État calédonien, avec la possibilité de transfert de compétences régaliennes avec la majorité au Congrès, et puis avec la possibilité à des pays tiers de reconnaître l'État calédonien sur la scène internationale. Était-ce la priorité ? Je n'en suis pas persuadé. Et donc, les perdants, une fois encore, ce sont les Calédoniens auxquels cet accord n'apporte aucune solution immédiate.
Cet État, c'est un État sui generis, c'est une appellation. Franchement, ce n'est pas un vrai État, il n'a pas de siège à l'ONU. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est essentiellement cosmétique, justement, pour trouver un compromis et faire des concessions de part et d'autre?
Écoutez, je répète ce que je viens de vous dire. En politique, n'existe que ce qui paraît exister. Alors, on peut toujours utiliser la sémantique, dire que ce n'est pas un vrai État, qu'il n'y a pas de... Que se passera-t-il si, effectivement, l'ONU reconnaît l'État calédonien? Si la Russie reconnaît l'État calédonien, si la Chine reconnaît l'État calédonien, si l'Azerbaïdjan reconnaît l'État calédonien, si tous les pays du Sud global reconnaissent l'État calédonien qui demande une résolution à l'ONU. Je vous pose la question, et si vous avez la réponse, je serai heureux de l'entendre.
La nationalité calédonienne qui est adossée à la nationalité française, ça veut dire qu'on ne peut pas être calédonien si l'on n'est pas français. De la même manière, est-ce que ce n'est pas une citoyenneté telle qu'elle existe déjà aujourd'hui depuis l'accord de Nouméa ?
Écoutez, l'article 1 de notre Constitution rappelle que la République est une et indivisible. Donc, on est français ou on n'est pas français. Donc, il faut savoir où on habite. Et une fois encore, ce n'était pas la priorité. Les Calédoniens ont besoin d'apaisement, de reconstruction. Ils ont besoin de gérer leur quotidien, de savoir où ils vont. Et cet accord, après les événements du mois de mai de l'année dernière, était précipité. fallait laisser retomber la pression, laisser retomber les tensions. Les Calédoniens ont besoin d'apaisement, de paix, de se reconstruire et non pas d'un débat institutionnel clivant. Les Calédoniens, ils ont besoin de se retrouver ensemble autour d'un projet constructif, de faire en sorte que chacun puisse comprendre, quelle que soit son origine, qu'elle soit européenne, mélanésienne, wallisienne ou autre, que tous ensemble, ils peuvent participer à un projet de développement économique gagnant-gagnant dans lequel chacun pourra tirer bénéfice.
Mais justement, est-ce que l'absence de référendum d'autodétermination, qui fait qu'on parle d'accord pérenne, est-ce que ça ne donne pas justement de la visibilité à la Calédonie et un temps pour parler d'autre chose que d'institution, puisqu'il n'y aura plus cette échéance pour ou contre l'indépendance?
Écoutez, vous parlez de référendum, j'observe que les trois référendums dont les loyalistes proclamaient l'irrévocabilité, ils se sont assis dessus, ils les ont lâchés.
La Calédonie reste française et elle est inscrite dans la Constitution française quand même.
Un référendum d'autodétermination après une période de paix, de développement, de reconstruction, d'ici quelques années, Marine Le Pen avait proposé 40 ans, aurait permis à chacun d'y trouver son compte.
Vous insistez beaucoup, et Marine Le Pen avait beaucoup insisté ici, sur la relance économique. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce volet économique qui est contenu dans l'accord, et notamment du plan stratégique pour la filière nickel ?
Écoutez, le plan stratégique sur la filière nickel, je l'ai trouvé quelque peu vide. On reprend quelques éléments du pacte nickel de Bruno Le Maire qui avait suscité quelques réactions très vives. Je n'ai pas observé de propositions concrètes, hormis la reprise de nos propositions de trouver une solution au niveau européen, sujet sur lequel je suis très actif à Bruxelles, puisque 80 à 90% du nickel importé dans les 27 États de l'Union européenne est du nickel chinois, et j'ai fait toucher du doigt auprès de la Commission qu'il y a en Nouvelle-Calédonie 20 à 30% des réserves mondiales de nickel, et que j'ai demandé à la Commission, par l'intermédiaire d'une question écrite et de contacts directs que j'ai avec les commissaires, d'étudier la possibilité de réserver une part non négligeable au nickel calédonien au niveau européen. Et le fait que le statut de la Calédonie soit approchant de celui du Groenland pourrait être une solution de ce point de vue-là.
Alors sur un plan politique, vous savez que les indépendantistes traînent les pieds. L'UC a vivement critiqué l'accord, le FLNKS a émis de fortes réserves, enfin son bureau politique a émis de fortes réserves. Cette réaction des indépendantistes, ça vous rassure ou ça vous inquiète?
Écoutez, il ne m'appartient pas de juger les décisions des indépendantistes. Je pense que les indépendantistes sont des Français d'origine mélanésienne qui ont besoin de comprendre qu'ils ne sont pas des citoyens français de deuxième catégorie, qui ont besoin de savoir que la France les considère, les respecte, qui ont besoin de comprendre que leurs coutumes, leurs traditions, leur patrimoine fait partie du patrimoine national. Et ils considèrent, eux, que la France s'est mal comportée avec eux. Ils doivent maintenant comprendre que c'est le contraire, que la France les considère, les reconnaît et qu'ils n'ont pas de raison de réclamer l'indépendance.
Alors André Rouget, vous le savez, ce texte, cet accord ou ce projet d'accord de Bougival doit encore suivre tout un processus juridique. Il va passer devant les deux chambres et en principe devant le Congrès de Versailles. Quelle va être l'attitude du Rassemblement National à l'Assemblée? On sait que le Rassemblement National a un rôle crucial.
Alors déjà, vous venez d'évoquer la procédure que je trouve pour le moins surprenante, puisqu'effectivement, elle va passer devant le Sénat, devant l'Assemblée, devant le Congrès de Versailles, pour réformer la Constitution. Et une fois cette étape réalisée, et seulement on soumettra à la consultation des Calédoniens. Alors si les Calédoniens rejettent cette réforme de la Constitution, que se passera-t-il? Que se passera-t-il? Je suis bien incapable de vous répondre. Est-ce que le gouvernement passera en force, comme ça a déjà été le cas après le référendum de Maastricht? C'est une question qu'il faut se poser. Alors, quelle sera l'attitude du groupe du Rassemblement National? Écoutez, le groupe du Rassemblement National va amender ce texte et en fonction du résultat final, après débat à l'Assemblée nationale, envisagera ou non de voter le texte. Il y a une question qui reste à se poser également, c'est le gouvernement sera-t-il en mesure de défendre ce texte devant le Parlement et devant le Congrès de Versailles, sachant qu'il y a une probabilité, et non des moindres, que le gouvernement soit censuré à l'issue du débat budgétaire. Or, comme il est prévu que le débat institutionnel vienne à l'automne après le débat budgétaire, ça suscite une véritable interrogation quant à l'avenir de ce débat.
André Rouget, je vous remercie.
Merci à vous.